Et c'est le journal de Florence Paracuellos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bienvenue à tous à la une ce matin. Venez chez Conforama, mais plus dans le magasin du Pont Neuf à Paris. Il sera bientôt fermé comme 31 autres, annonce de la direction. 1900 postes supprimés dans cette enseigne historique du meuble. Coup de massue pour les salariés, on va l'entendre. Et on verra comment Confo en est arrivé là. Les urgentistes toujours aussi colère. Dernière manifestation avant les vacances. Il va falloir en lâcher plus que ce qu'a fait Agnès Buzyn pour les satisfaire. À la une également, ces orages violents en Rhône-Alpes, notamment du côté du lac d'Annecy, 50 000 foyers sans électricité ce matin. La première rentrée des nouveaux députés européens, rencontre avec l'élu Bartolo, médecin de Lampedusa. Et eux, quel regard portent-ils sur l'accueil fait aux exilés en Europe? Question à vos deux invités tout à l'heure.
Oui, les historiens Serge et Beate Klarsfeld qui recevront demain le Grand Prix franco-allemand des médias. Ils sont les invités du grand entretien de la matinale. Dialoguez avec eux dès maintenant, 01 45 24 7000. Le standard est ouvert. N'oubliez pas les réseaux sociaux et l'application mobile d'Inter.
L'attentat du Thalys, il y a 4 ans, l'assaillant maîtrisé par des militaires américains a raconté sa version des faits au juge. Interrogatoire que France Inter vous dévoile en exclusivité. Dans ce journal également, ces départements qui vont rester à 80 km/h. Et puis l'aventure des sœurs gorilles du zoo de Beauval au Gabon. Elles y sont depuis la semaine dernière et on vous donne de leurs nouvelles.
France Inter.
Ils ont inauguré le concept de meuble discount en France dans les années 60. Les carrefours du meuble devenus Conforama, ces armoires à monter soi-même, ces décors recréés avant le débarquement d'IKEA. Mais voilà, depuis 2010, Conforama ne fait plus de bénéfices et accumule les pertes. 1900 postes vont être supprimés, 32 magasins fermés. Le couperet est tombé hier, inimaginable pour les salariés, pour Aziz Boucherit, délégué CGT.
On n'arrive pas encore à imaginer ce que c'est 1900 suppressions de postes. Comme c'est quelque chose qui nous est jamais arrivé à Conforama, qui a de tout temps été, quel que soit d'ailleurs l'actionnaire majoritaire, la vache à lait. Les salariés de Conforama, pour beaucoup, sont très anciens, ont donné de leur santé, de leur temps à cette entreprise. On a été un outil manipulé et aujourd'hui, quand on nous a essorés, ben on est bon pour la poubelle. Et ça, c'est juste inacceptable et inhumain.
1900 postes supprimés, c'est 20% de l'effectif en France. Aziz Boucherit au micro de Maxence Lambrec. Conforama, depuis 2011, est la propriété d'un groupe sud-africain. Bonjour Maxime Debs.
Bonjour.
Une question ce matin, comment en est-on arrivé là?
Eh bien c'est l'histoire simplement d'un groupe qui n'a pas réussi à se réinventer. Des années à chercher, à tenter de se positionner sur un marché du meuble qui n'est plus celui d'il y a 30 ans. IKEA, vous l'avez dit, est passé par là et rien n'a fonctionné comme espéré. Il y a eu la fusion ratée avec Darty en 2016. La tentative de monter en gamme manquait il y a 2 ans et des investisseurs sud-africains qui ont laissé dans le flou les 9000 salariés depuis des mois. La rumeur qu'on chercherait à revendre Confo ne cesse d'enfler dans les rayons et même lorsque les caisses du groupe ont été renflouées en avril dernier, 316 millions d'euros injectés, eh bien les salariés se sont méfiés tout simplement parce que le même jour, une nouvelle direction a été installée avec l'arrivée aux commandes d'Hélène Libuig, la femme du neveu de Martin Buig, laquelle avait joué un rôle dans la suppression de près de 1500 postes à la halle et à la halle aux chaussures. C'était en 2015 et cette fois, c'est au tour de Conforama.
Maxime Debs du service économique de France Inter.
Il est 8h04, de la grêle et du vent, Florent, jusqu'à 130 km/h cette nuit en Auvergne-Rhône-Alpes.
Les orages ont été particulièrement violents. Dans la Loire, un homme a été foudroyé. Une personne a été grièvement blessée par la chute d'un arbre sur son camping-car à Doussard au bord du lac d'Annecy, où le toit de la salle des fêtes est tombé pendant un concert. Sans faire de blessés, les 300 spectateurs ont réussi à se mettre à l'abri. Sur ce même lac d'Annecy, un bateau-restaurant, le Libellule, a heurté une pierre. Ses passagers ont dû être évacués. Raphaël, par exemple, qui comptait fêter ses 19 ans de mariage avec son épouse.
Une fois qu'on est parti, au bout d'une vingtaine de minutes, ça a commencé à se couvrir, à bien se couvrir et à tanguer, mais quelque chose comme si c'était une mer. D'ailleurs, les pompiers nous ont dit que ça faisait 20 ans que c'était pas arrivé. Donc ça a cassé toutes les bouteilles à l'intérieur, la cave à vin elle est cassée, il n'y avait plus un verre, il y a quelques personnes qui ont paniqué. Il y a des Canadiens qui sont... La femme est enceinte, donc là elle a vraiment eu beaucoup de peine à gérer, donc on est resté avec elle, voilà.
Et il a fallu passer sur un autre bateau, ça
c'est ouais, pas... ouais. On est passé du Libellule à l'autre, je sais pas comment... La Belle Étoile, voilà. Mais en fait, il y a eu beaucoup de pompiers, des plongeurs pour sécuriser, ça pouvait pas mal se passer. Sur le moment, ça fait un bien satanique. Sur le moment, on a eu un peu peur, mais ça a duré quoi, 10 minutes, le temps de voir qu'il y avait une maîtrise quand même. Mais on n'a rien mangé au final. Manquerait plus qu'il nous envoie l'addition.
Voilà Raphaël et son anniversaire de mariage avorté au micro de Richard Vivion. 49 000 foyers sont toujours privés d'électricité ce matin dans la région. Un TGV Paris-Grenoble, Paris parti avant 20h hier soir, est resté immobilisé toute la nuit en gare de Lyon-Saint-Exupéry. Il devait repartir ce matin. L'alerte aux orages vaut aujourd'hui pour l'Ardèche, le Gard, le Cantal, la Haute-Loire et la Lozère. Pour eux, la météo reste la même. La surchauffe aux urgences. Nouvelle manifestation aujourd'hui entre le ministère des Finances et celui de la Santé à Paris. 153 services en grève selon le collectif Interurgence. Les soignants continuent à réclamer des effectifs supplémentaires, 300 euros de hausse de salaire et la fin des fermetures de lits. Ils considèrent les récentes annonces d'Agnès Buzyn comme des avancées insuffisantes. Véronique Julien.
Éteindre le feu avant les vacances a été la priorité des dernières semaines. En attendant, d'ici le mois de novembre, les propositions de la mission chargée de revoir les règles de fonctionnement des urgences, le ministère de la Santé a sorti le chéquier. 70 millions débloqués tout de suite pour verser 100 euros de prime mensuelle au personnel et prévoir du renfort cet été. Localement aussi, des initiatives ont été prises. Les urgences du CHU de Nantes ont obtenu 10 postes supplémentaires par exemple. Et aux hôpitaux de Paris, d'où est parti le mouvement au mois de mars, la direction a elle aussi lâché du lest. Elle vient de proposer la création de 230 postes pour ses 25 services d'urgence et se donne pour objectif de supprimer tous les brancards qui dorment des heures dans les couloirs en prévoyant plus de lits en aval. Des réponses locales donc pour calmer la grogne, mais le collectif en veut plus. D'après lui, ce ne sont pas 100 mais 300 euros de prime que réclament les personnels et ce sont toujours près de 10 000 postes qui manquent pour pouvoir fonctionner correctement. Le collectif voudrait d'ailleurs que soit imposée aux urgences une norme d'effectifs, une norme comme ça existe dans d'autres services en dessous de laquelle les urgences ne seraient plus habilitées à fonctionner.
Et les mois de juillet-août sont traditionnellement difficiles aux urgences, le sous-effectif étant accentué par les vacances. L'Agence régionale de santé d'Île-de-France estime qu'un millier de plages de 12 heures ne sont pas pourvues sur les tableaux de service. La fin d'une grève de 16 mois à la Poste des Hauts-de-Seine, le syndicat Sud PTT et la direction ont fini par se mettre d'accord sur un calendrier de réorganisation des sites du département. Les 5% de postiers grévistes vont reprendre le travail après 43 séances de négociations.
Et eux, Florence, sauront-ils se mettre d'accord?
Pendant que les 28 dirigeants de l'Union européenne ont de nouveau rendez-vous à 11h à Bruxelles pour reprendre leur mécano si compliqué des postes clés à pourvoir, les eurodéputés feront leur entrée à Strasbourg, première session plénière au Parlement depuis l'élection du mois de mai. Et parmi les nouveaux arrivants, on s'arrête ce matin sur un Italien, Pietro Bartolo, médecin de son état, pas n'importe où, mais à Lampedusa, où il a été le témoin des naufrages et des débarquements de milliers d'exilés. Élu sur la liste du Parti démocrate italien, il veut se battre pour que la Méditerranée ne soit plus un cimetière. Reportage sur place, signé Julie Pietri.
En 2016, c'est par le documentaire Fuoco a Mare que le visage de Pietro Bartolo est découvert au-delà de Lampedusa. Le médecin qui travaille sur l'île depuis 30 ans est aussi celui qui secourt, soigne, constate le décès des exilés.
Tout cela laisse en vous tellement de colère que ça fait un vide dans l'estomac, un trou.
Au Parlement européen, le médecin de 63 ans veut mettre de l'humain, du vécu, dans le débat sur l'accueil des migrants. Il peut aider et selon moi, il va aider, pense le maire de Lampedusa, Toto Martello, tout comme Sebastiano qui dirige plusieurs hôtels de l'île.
Bien sûr que je le connais, c'est un de mes amis, c'est une super personne. Je lui ai souhaité bonne chance pour l'Europe.
Mais à Lampedusa, certains comme Giacomo, artiste, critiquent aussi la récente popularité du docteur.
Ici, nous avons une clinique où les médecins spécialisés viennent une fois par semaine, si tout va bien. On ne peut pas accoucher sur place. Et pour des examens banals, on doit quitter l'île. Le docteur Pietro Bartolo n'a rien amélioré. Et sur l'immigration, moi je pense qu'il n'a fait que son travail. Mais ici, c'est une fabrique à héros.
Mon cœur est à Lampedusa, a écrit récemment le médecin sur les réseaux sociaux. Ces derniers jours, il y a soutenu la capitaine du Sea-Watch, arrêtée après avoir secouru des dizaines de personnes en mer.
La capitaine du Sea-Watch qui a été présentée à un juge hier après-midi à Agrigente, en Sicile. L'Iran joue avec le feu, réaction de Donald Trump hier après que l'Iran a franchi la limite imposée à ses réserves du d'uranium. Le président américain s'en est entretenu avec Emmanuel Macron au téléphone. Ont-ils parlé des nouvelles menaces américaines sur les produits européens? Washington veut taxer des fromages et des whiskies en rétorsion aux subventions de l'Union à Airbus, notamment, qu'il juge excessives, alors que l'Europe critique de son côté les aides versées par les Américains à Boeing. Et puis toujours à l'étranger, le président tunisien Béji Caïd Essebsi a quitté l'hôpital hier soir. À 92 ans, il y était depuis jeudi, après un malaise. Son fils annonce qu'il reprendra le travail dans les jours qui viennent.
Il est 8h11 et si un sourire avait permis d'éviter le pire.
C'est peut-être ce qui s'est passé lors de l'attaque du Thalys le 21 août 2015. C'est en tout cas ce qu'a raconté l'assaillant Ayoub El Kazani au juge d'instruction. Interrogatoire que Charlotte Piret de France Inter a pu consulter en exclusivité.
Il m'a souri et moi ça m'a bloqué. Entendu à sa demande par visioconférence depuis la prison où il est incarcéré, Ayoub El Kazani raconte cet attentat raté. Depuis sa sortie des toilettes du train, Kalachnikov et pistolet automatique à la main, jusqu'au moment où il est maîtrisé par un militaire américain. Il a sorti sa tête, je n'ai pas pu tirer sur la tête d'un être humain. J'ai commencé à trembler, je l'ai laissé me maîtriser, poursuit le Marocain de 29 ans. L'attentat avait pourtant été minutieusement préparé par Abdelhamid Abaoud, celui-là même qui, quelques mois plus tard, allait devenir le coordonnateur des commandos des attentats du 13 novembre. Mais dès le mois d'août 2015, Abaoud est à Bruxelles, fournit les armes qui vont servir à l'attaque du Thalys, donne l'ordre de prendre un billet pour le train de 17h, voiture 12, précise la cible, des militaires américains dont les descriptions physiques correspondaient exactement à ce qu'il m'avait dit, raconte aujourd'hui Ayoub El Kazani au juge. C'est Abaoud encore qui fournit les chargeurs, neufs, comme les soldats en Syrie, lui qui donne un bidon d'essence en me disant que si jamais les policiers venaient, j'aurais pu m'immoler au lieu de me faire arrêter, détaille encore Ayoub El Kazani, qui au lieu de ça, devra répondre de ses actes devant une cour d'assises.
Charlotte Piret, tonnerre d'applaudissements pour Patrick Balkany hier soir au conseil municipal de Levallois-Perret. Des habitants étaient venus faire la claque pour soutenir leur maire après son procès pour corruption et blanchiment. Moi je m'en fiche de ce qu'on dit, je suis aimé des Levalloisiens, a déclaré l'édile contre lequel le parquet financier a requis 7 ans de prison ferme avec incarcération immédiate. Le jugement sera rendu le 18 octobre. Le retour à 90 km/h, non merci, alors que les départements sont autorisés à déroger à la règle. Ils sont une dizaine qui ont choisi de ne pas le faire et de continuer à 80 sur les routes secondaires sans séparateur central. Et tant pis pour les automobilistes en colère, Thibault Lefebvre.
Pour Denis Bouad, le président du conseil départemental du Gard, la loi, c'est la loi.
Je ne fais qu'appliquer les lois de la République. C'est bien le Premier ministre qui, par décret, a fixé cette limitation maximum. On a une parole du Premier ministre qui est remise en cause par le Parlement. Et que dans chaque département, en définitive, on peut faire un petit peu ce qu'on veut. Tout ça me paraît un petit peu cavalier.
Du grand n'importe quoi donc pour l'élu socialiste qui essaie de ne pas ajouter encore plus de confusion sur ses routes.
C'est une forêt de poteaux limitation de vitesse qu'on a. Hein. C'est déjà suffisamment complexe sans qu'on rajoute entre les départements une complexité supplémentaire. Ils sont gentils les députés, mais vous n'avez pas un petit peu l'impression que les Français ne s'y retrouvent plus là-dedans ?
Des Français qui interpellent leurs élus locaux. Philippe Grosvalet est le président du conseil départemental de Loire-Atlantique. Et comme Denis Bouad, il est favorable au maintien de la limitation à 80.
Il y a deux réactions. Je me fais insulter sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas le courage de me le dire en face. Et dans la rue, tous les jours, les gens viennent me féliciter, viennent me remercier discrètement. Donc j'assume pleinement ce choix et cette responsabilité.
Un choix qui dépasse les clivages politiques. Des présidents de conseils départementaux de droite, comme par exemple celui du Rhône, sont eux aussi favorables au statu quo.
Voilà, et pour repasser à 90, il faudra attendre la promulgation de la loi d'orientation sur les mobilités. Adrien Rabiot a retrouvé du boulot, c'est sa mère qui va être contente, placardisée au PSG. Le milieu de terrain a signé à la Juventus Turin. Son dernier match remonte au 11 décembre. Puis plus rien à cause d'un conflit avec le club parisien autour de la prolongation de son contrat. Elle a 15 ans, plus jeune joueuse de l'histoire de Wimbledon et elle a battu Venus Williams, quintuple vainqueur du tournoi en 2-7. Hier soir, elle s'appelle Cory Gauff. Elle en a pleuré de joie. Chez les Français, pas de larmes pour les trois qualifiés du jour, Benoît Paire, Jérémy Chardy et Corentin Moutet. Enfin, le voyage de deux gorilles au Japon. On vous en parlait la semaine dernière au moment de leur départ du zoo de Beauval. Les deux sont nés en France, en captivité, les voilà libres, ce qui est inédit, dans la forêt équatoriale où elles feront leur premier pas, où elles viennent de faire leur premier pas. L'équipe du zoo les a accompagnées. Elle est de retour, Delphine Evenou. Alors comment ça s'est passé ?
Après 5 ans aux petits soins pour Mayombe et Quimba, Antoine Leclerc, le vétérinaire du zoo de Beauval, a dû les quitter ce week-end, non sans émotion.
Il y a un sentiment un peu double, parce que d'un côté, on est triste de plus les voir, parce que c'est des animaux à qui on était attachés avec tout ce temps qu'on a passé ensemble. Et en même temps, on est tellement heureux pour eux. Cette zone protégée est tellement belle que c'est quelque chose de fabuleux. Et donc voilà, c'est quand même ce sentiment-là qui domine largement, même si c'est sûr que quand on part, on a un petit pincement au cœur, parce qu'on laisse quelqu'un qu'on connaissait bien.
Pas d'effusion de sentiments au moment des adieux. Les au revoir se sont faits de loin, car les deux gorilles ne quittent pas beaucoup la végétation. Pour sa première nuit sur place, Mayombe, l'aîné, a osé un somme perché à 30 mètres dans un arbre. Quimba, refroidi par une petite chute dans la rivière dès son arrivée, a préféré, elle, rester au sol dans les lianes. Tout cela sous le regard bienveillant de l'équipe de Beauval, Rodolphe Delors, le directeur.
Les soigneurs ont dormi de l'autre côté de la rivière, en haut d'un mirador entouré de moustiquaires. Donc on les a entendus vocaliser un peu à nuit. Et nous avons installé des caméras trappes à deux endroits. Et nous avons vu les évolutions des gorilles. On les a vus venir devant les caméras, chercher de la nourriture. Enfin, c'est des moments plus que magiques.
Prochaine étape pour les deux gorilles, dans quelques semaines, avec l'arrivée sur l'île d'un mâle britannique, un nouveau copain de jeu, avant de rejoindre pour de bon le reste de la forêt équatoriale et la communauté de 53 primates qui y vivent.
Voilà, retour à l'état sauvage, un peu comme vous en vacances.
Oui, c'est ça, c'est prévu pour la fin de semaine. Merci Florence Paracuello. S'il est 8h16, la météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo, avec les volets roulants Velux, la protection efficace en cas de forte chaleur ou d'orage, fabriquée en France. À retrouver sur velux.fr.
Et les températures sont en baisse, Marie-Pierre.
Et oui, ce matin, 3 petits degrés hein, dans l'Orne, 6 dans l'Oise, et c'est à cause, en fait, ou grâce à cet air océanique qui est arrivé par le nord du pays, qui on retrouva cet après-midi des valeurs de saison. Alors, la chaleur s'est réfugiée donc dans le sud-est. Il y avait encore ce matin 22 à Nîmes, 25 à Nice, et côté ciel, sur la moitié nord, le soleil est toujours dominant, alors que le temps va rester encore lourd et orageux ce matin du sud-ouest aux Alpes, avec quelques averses orageuses, et autour de la Méditerranée jusqu'aux Alpes du Sud, votre matinée sera très ensoleillée.
Et cet après-midi, reprise de l'activité orageuse.
Et oui, en fait, cette masse d'air frais, Nicolas, qui est arrivée par le nord-est, vient se confronter à l'air beaucoup plus chaud, toujours présent sur le sud-est. Ça engendre des orages, qui sera à nouveau violent cet après-midi, ce soir et dans la nuit, avec de la grêle, de fortes rafales du massif central aux Alpes, avec 5 départements placés en vigilance orange, le Cantal, la Haute-Loire, la Lozère, l'Ardèche et le Gard. Sur la moitié nord, ce sera soleil, même si quelques cumulus vont venir jouer à cache-cache, de la Bretagne aux Hauts-de-France, et au plus bas, il fera 22 à Quimper, 24 à Lille, 25 à Paris et sur la plage des Demoiselles, à Saint-Jean-de-Mont, 28 à Toulouse, à Nantes, 29 à Lyon, comptez 31 à Grenoble comme à Ajaccio, 38 à Nîmes.